Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Dans un monde où tout s'accélère, où on s'oublie, où on a tendance à un petit peu se distancier les uns des autres, il y a une chose que nous oublions, c'est notre contact, c'est notre toucher. C'est cette présence et cette importance que l'on a vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis de l'autre. Pour parler de ce sujet très important qui est le contact, qui est le toucher, j'ai la chance de recevoir Marie-Laure Pimentel et Pascal Baert pour échanger, pour nous parler de leurs ressentis et de leurs pratiques et surtout de cette importance du toucher. Bonjour mesdames.
Bonjour Daniel.
Comme on a vu, le toucher est extrêmement important pour soi, mais pour l'autre aussi, pour la relation, que ce soit la relation dans la famille, dans le couple, dans les amis, dans le professionnel. Ce contact est nécessaire sans rentrer dans le trop, ne pas non plus passer dans le pas assez.
Pour moi, le toucher, c'est un besoin fondamental de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Il est indispensable pour l'évolution de l'enfant, il est indispensable pour se sentir exister quand on est beaucoup plus âgé, on est moins touché, et ces personnes âgées finissent par ne plus exister, elles sont isolées, elles se mettent en situation vraiment de retrait, de repli. Il y a la dépression qui peut se faire sentir suite à ça, mais il est aussi important de se toucher lorsqu'on est actif, dans les relations, comme vous l'avez dit, avec son conjoint, pour créer le lien. Le toucher, pour moi, il est vraiment indispensable. Je ne peux pas imaginer une vie sans toucher.
En effet, la dimension du toucher est relativement importante dans notre société. On le voit d'autant plus avec cette absence du toucher qui prend de plus en plus d'ampleur, où les personnes s'individualisent, se séparent. Aujourd'hui, on aurait envie de revenir vers un peu plus d'intériorité, vers un peu plus de ressenti. Au niveau du toucher, qu'est-ce qu'on pourrait en apporter comme information ?
Ça apporte beaucoup de sécurité. Les gens qui viennent nous voir touchés via les massages ou les modelages, que ce soit aussi par l'intermédiaire de la réflexologie, en fait, viennent chercher tout d'abord une détente, mais aussi tout un réconfort et une reconnexion avec eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un toucher bienveillant et un toucher professionnel, je dirais, avec de la technique qui apporte justement cette réunification entre le peau à peau de la personne donc et du praticien. Et c'est vrai que ce besoin de sécurité, de limites corporelles, de reconnaissance et de réappropriation de soi est ultra importante dans une société où on a beaucoup parlé et mis en avant le psychique au détriment parfois justement des touchés physiques.
Tout à fait, et ce que tu dis est très judicieux également, c'est-à-dire que depuis quelques années, on met en avant tout le travail psycho-émotionnel, on met en avant le travail d'analyse, d'introspection, à défaut très souvent de ce contact vis-à-vis de son corps, mais également, comme tu l'as soulevé, de cette notion de bulle personnelle, de cette dimension personnelle corporelle, où finalement il n'y a plus de limites. On ne sait pas, soit on est dans le trop, où on est sur soi, soit on est dans le pas assez et on est peut-être aussi dans l'exagération du toucher, dans le contact, dans le surcontact.
Oui, parce qu'il y a une perte d'habitude du toucher. C'est pour ça que tout à l'heure Pascal disait que c'est important d'avoir un toucher bienveillant et de se toucher en famille. Ça va déjà avec le nouveau-né, le tout petit, il y a un point sécure qui est sous le siège en fait du bébé où on a en fait une bonne emprise. Donc en tout respect hein, de cet individu qui vient de sortir, il y a déjà en fait ce contact-là au-delà bien évidemment. Donc là c'est, je parle en situation de portage, mais ensuite on peut tout à fait commencer à masser les bébés et au-delà de ça, il y a le fait de se reconnecter, comme on disait tout à l'heure, avec soi-même, mais aussi de se sentir exister avec toutes les terminaisons nerveuses qu'on a sur le corps. Et le corps et l'esprit ne faisant qu'un, c'est essentiel de favoriser les deux de manière équilibrée.
On a d'effectuer ce travail en commun, même si souvent les praticiens ne pratiquent pas sur les deux champs d'action, c'est pouvoir aussi s'autoriser l'information de se dire je travaille aussi sur mon corps, mais que ce soit par le biais de soins, massages, comme d'activité physique aussi, c'est ça ?
Oui, tout à fait. L'activité physique reste importante pour le bien-être du corps humain.
Effectivement, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et lorsque nous faisons des massages chez les personnes, C'est vrai qu'on travaille le corps, mais tous les messages sont envoyés à l'esprit. Et donc l'esprit va être détendu, le corps va être détendu. Et en fait, c'est vraiment la globalité de la personne qui est prise en charge et qui va, enfin, qui est accompagnée plutôt, et qui va se relaxer, aussi bien l'esprit que les muscles. Et donc vraiment, se toucher, il touche tout. Il touche vraiment et le système nerveux et le corps physique.
Et face à une personne qui, justement, aurait cette difficulté à accepter ce contact, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Alors, il faut faire très attention, parce que nous, évidemment, on est très fort dans ce toucher, dans ce massage, mais il y a des personnes qui ne supportent pas être touchées, et ça, il faut le respecter. Je pense que souvent, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une mémoire qui est réactivée lorsqu'on touche la personne, et je pense qu'il faut respecter ça, et donc, soit la personne est décidée de faire un travail, et on y va très doucement, avec des massages peut-être de mains, courts, puis on va un petit peu plus loin. Mais certainement, ne jamais obliger quelqu'un à être touché ou à être massé. Il faut respecter ce corps, sinon c'est un traumatisme supplémentaire pour la personne.
Là, c'est aussi important d'observer, on ne force pas le contact.
Jamais.
Et une personne qui n'est pas forcément dans cette démarche de contact, parce que ça peut être épidermique aussi, ça peut s'entendre, pas la forcer effectuer ce genre de démarche.
Jamais.
Ça irait complètement à l'encontre de l'intention, hein, si on peut mettre une intention dans ce type de soins. Parce que justement, comme disait Pascal, en fait, ça va renforcer un mal-être. Donc à ce moment-là, ben, peut-être proposer juste déjà une séance de conversation. Ça m'arrive, quand j'interviens à l'association Posophie là-haut, de faire uniquement des consultations déjà pour apprendre à se connaître, pour qu'il y ait déjà un climat de confiance qui se mette en place. Et la fois d'après, ben, souvent, on peut commencer par une réflexologie palmaire ou une réflexologie plantaire, si la personne est déjà plus à l'aise avec ça, et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, ben, on peut aller un peu plus loin dans le toucher, jusqu'à toucher ben, peut-être le dos, commencer par des parties qui sont pas trop intimes par rapport, mettons, à un massage de jambes, où l'approche est vraiment différente aussi, donc évoluer au fur et à mesure de la connaissance, au fur et à mesure de la confiance, et donc évoluer dans le toucher aussi par rapport à ça, tout en respectant le rythme de la personne, bien évidemment. S'il faut faire plusieurs réflexologies palmaires avant de pouvoir faire une réflexologie plantaire, ben on va prendre le temps, parce que le chemin psychologique, en fait, toute la psyché derrière va suivre. Il y a tout un travail personnel qui va être réalisé en même temps, sans forcément aller consulter de thérapeute de ce domaine-là, mais déjà au niveau de la réconciliation avec soi-même, en fait.
À partir du moment où la personne fait la démarche de venir chez nous, c'est déjà un grand pas en avant. Mais non, il faut aussi dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les massages simplement parce qu'il y a la culture derrière, il y a aussi les personnes âgées, elles ont eu moins cette habitude d'être massées que nous. Moi, je sais, je serais hospitalisée, je demanderais un petit massage. mais c'est vrai qu'il y a toute une culture aussi du toucher qui a évolué avec le temps. Mais lorsqu'on va dans des maisons de retraite et qu'on fait un massage de main aux personnes âgées, aux résidents, c'est magique. C'est vraiment magique parce qu'elles redécouvrent une partie de leur corps qui a certainement beaucoup travaillé durant leur vie. Elles les regardent, elles les touchent même après le massage. Elles se rendent compte que, ben oui, elles ont des mains, elles ont existé, elles ont fait beaucoup de choses. Alors moi, j'avais quand même une petite anecdote. Je suis allée donc en maison de retraite et il y a une résidente qui a trouvé que c'était fabuleux le massage des mains. Elle était démente et donc elle ne me reconnaissait pas de fois en fois, mais elle trouvait que c'était assez fabuleux le massage des mains. Et donc elle a fini par elle me masser les mains. Et donc ça, j'ai trouvé un échange, mais vraiment fabuleux. C'était, voilà, elle avait redécouvert un sens et elle me l'a offert. C'était juste que du bonheur.
Vers quel public ça s'adresse, cette dimension du toucher ? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut parler de dimension de contact ?
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. La femme enceinte, on va déjà s'occuper du bébé. Marie-Laure peut vous en parler de façon un peu plus détaillée, mais d'abord demander l'autorisation au bébé. Ça, c'est la première chose. Mais après, c'est les personnes qui sont malades, c'est les personnes qui sont en bonne santé, qui veulent simplement améliorer un petit peu leur bien-être. C'est des personnes en fin de vie. Les massages sont différents pour chacun. Ça, il faut savoir. On ne masse pas une personne en fin de vie comme on va masser un travailleur qui a des tensions au niveau du dos. Mais il n'y a pas de restriction. Le toucher, il doit être donné à tout le monde.
Oui, tout à fait. À commencer déjà, donc, dans la vie intra-utérine, hein, il y a le contact de la main de la maman sur le ventre, celle du papa, si la maman est à l'aise avec celle des proches ou quoi. Dès que le bébé sort, il y a un pot à pot à privilégier de manière incommensurable, tellement il y a de communication non verbale qui passe. Et en fait, il n'y a pas de limite, de limite basse pour pouvoir toucher en fait, et masser le nouveau-né. Dans la mesure où on prend beaucoup de précautions au niveau de la température de la pièce, de la durée du massage, tout ça. Il faut prendre en considération tout un environnement, créer une ambiance très calme pour que justement il puisse y avoir une communication autre que la communication verbale. Comme Pascal disait tout à l'heure, on s'adresse toujours au bébé parce que c'est essentiel de leur parler de toute manière pour savoir s'il est disponible à recevoir un massage, un toucher. Donc on pose clairement la question et dans tous les cas, on verra une réaction, comment dire, dans la complicité et dans l'accord, parce qu'il n'y aura pas forcément de réaction, soit au contraire, il va y avoir peut-être une gestuelle ou des sons qui vont pouvoir être manifestés et qui vont dire non, je ne suis pas d'accord, pas pour l'instant. Donc, auquel cas, il faut recommencer plus tard dans la journée, plus tard le lendemain, plus tard dans la semaine, et instaurer en fait un rituel au niveau des massages chez les nouveau-nés, les enfants, les bambins et les enfants, ça permet aussi de leur créer des repères. Et donc ces repères-là, ça va les structurer, ça va leur créer un climat de confiance, un climat de confort, et donc un climat de sécurité dans lequel ils vont se sentir épanouis. Parce que justement, ils auront une référence, et que ce soit une référence au niveau temporel de la journée, ou une référence avec la personne qui est habituée à leur donner ces massages-là, et il arrive un moment où ils basculent dans le mimétisme. Et alors quand ils basculent dans le mimétisme, c'est, comme disait Pascal, du pur bonheur en fait, parce que ils nous rendent une partie de ce qu'on leur donne. C'est souvent le parent qui masse l'enfant, donc il y a beaucoup d'amour qui passe à ce moment-là, et ça par expérience, c'est quelque chose qui construit vraiment sainement une relation en fait entre un enfant et son parent. Au-delà des enfants, effectivement, aller masser des enfants plus grands, ça sera peut-être de manière un peu plus disparate ou un peu moins fréquente, mais il y aura quand même en fait ce toucher-là au moment où il y a une chute, au moment où ils ont une douleur quelque part, qu'il n'y a pas de suivi médical, ou même s'il y avait un suivi médical, en fait, en faisant attention avec le corps médical, voir si effectivement c'est compatible ou pas, on pourrait effectivement masser pour aider à une guérison plus rapide, parce qu'il y a une amélioration de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique aussi, et donc tout ça nettoie en fait l'organisme et permet du coup de pouvoir avoir un rétablissement anticipé en quelque sorte.
Chez les enfants, on utilise aussi le massage par exemple lorsque on doit faire une prise de sang chez un petit enfant. Il agit pour détourner l'attention de l'enfant. Alors il ne diminue pas vraiment la douleur, mais le bien-être du massage passe au-dessus de la douleur de la prise de sang. Et donc, du coup, l'enfant est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme pour recevoir sa prise de sang.
Donc, tu parlais tout à l'heure, Marie-Laure, de l'interaction notamment avec les personnes malades ou en souffrance. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interventions de praticiens en réflexo ou en massage autre qui interviennent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite en général, mais également dans les hôpitaux, dans les services spécialisés, dans les soins d'oncologie, dans les soins de cardio, différents services. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? L'importance justement de ce soin? Est-ce que des fois il y a des situations où l'approche par le toucher n'est pas conseillée ou est-ce qu'elle est généralement ouverte par le corps médical?
Alors, le corps médical s'y ouvre petit à petit. Il y a de plus en plus d'études et de recherches qui sont réalisées et qui prouvent effectivement que mêler la médecine conventionnelle avec des pratiques non réglementées, quand c'est fait en coalition, il y a souvent effectivement une répercussion toujours plus positive. Donc je disais, il y a des tas d'études qui ont été faites sur des patients qui ont justement reçu des massages et d'autres pas. Il en va en fait que le résultat, les personnes qui ont reçu les massages sont des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à la médecine conventionnelle parce qu'elles sont beaucoup plus détendues, beaucoup moins stressées. Et donc les effets bénéfiques de la guérison allopathique ou les massages permettent vraiment une remise en forme plus rapide ou plus longue en termes de durabilité. Il n'y a pas justement de preuves scientifiques comme dans la médecine conventionnelle, mais il y a quand même des écoutes. On parle aussi des des magnétiseurs pour les coupeurs de feu, en l'occurrence à Bordeaux, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup depuis quelques années. Donc il y a toute une ouverture en fait qui permet d'avancer ensemble dans la guérison des patients.
Oui, et puis il y a aussi hein, quand même un côté un peu scientifique. Il est reconnu que lorsqu'on masse quelqu'un, il y a production d'hormones, notamment la dopamine, les endorphines, qui vont faire un effet analgésique, la sérotonine, l'ocytocine. Donc quand le taux d'ocytocine monte avec les massages, le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va diminuer, et donc forcément on va avoir un impact sur le stress. En Belgique, moi je pratiquais avec les personnes qui étaient opérées d'un cancer du sein. La veille de l'intervention, on allait masser les patientes. D'abord, il y avait énormément d'échanges de par le toucher, mais aussi le lendemain matin, quand elles venaient à l'intervention, les gynécologues disaient, on voyait la différence entre les personnes qui avaient été massées et celles qui ne l'avaient pas été. Elles étaient beaucoup plus détendues, elles étaient plus sereines par rapport à l'intervention.
Alors là, on voit qu'il y a une facilitation d'adaptation aux interventions, peut-être aussi au plan de récupération. Il y a aussi, tu l'as soulevé tout à l'heure avec l'intervention en maison de retraite dans ton exemple, il y a aussi ce recontact avec le corps. C'est aussi de voir de quelle manière, par le biais du toucher, donc par le soin-massage, on arrive à réapproprier le corps à quelqu'un, quel que soit l'âge finalement.
Oui, tout à fait. Il y a une étude qui avait montré les patients Alzheimer, si on venait les masser, la même personne, tous les jours, à la même heure, la même durée et la même partie du corps, il n'y avait pas vraiment une reconnaissance de la personne, mais on voyait à travers les yeux de la personne qu'elle savait pourquoi on venait. Et à la limite, elle donnait les mains. Si on avait fait un massage de main pendant X temps...
Par anticipation, la personne arrivait à se rappeler.
Tout à fait, absolument. Et donc ça, c'était vraiment très, très positif. Mais il faut toucher les personnes âgées. C'est quelque chose d'indispensable pour eux, pour ne plus qu'elles s'isolent. C'est vraiment un phénomène typique. Les personnes qui ne sont plus touchées, elles n'existent plus. Elles vont du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Il n'y a plus, comment dire, cette estime de soi. On finit par entendre les personnes âgées qui disent « j'existe plus, je suis transparente ». Donc ce sont des mots très, très forts. Et donc par le toucher, par le massage, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour qu'elles existent, nos personnes âgées. C'est notre passé, c'est notre, comment dire, tout notre patrimoine, les personnes âgées. Et donc, il ne faut pas les laisser sans toucher.
Puis nous sommes de futures personnes âgées.
Absolument.
Aussi.
Alors, c'est vrai qu'il y a un frein. Et ça, on l'entendait même au niveau des soignants, parce que c'est le miroir de notre futur. Quand on voit les personnes âgées qui sont toutes ridées, qui sont le corps un peu déformé, les mains déformées par l'arthrose, c'est contagieux, pense-t-on. Mais je vais vous rassurer, ce n'est pas contagieux, mais on va tous devenir vieux. Et donc, on va tous, à un moment donné, avoir des rides, avoir des déformations peut-être des mains, je vous souhaite le plus tard possible, mais si vous n'êtes plus touché, mais vous allez être malheureux comme c'est pas possible, vous allez vraiment être absent du monde des actifs. Et donc ça, c'est vraiment à travailler, je trouve, c'est hyper important.
Puis de notre espèce, en fait, l'isolement crée la maladie aussi. Donc il y a ça effectivement chez les personnes âgées. On le retrouve après chez des personnes en âge d'activité. Si effectivement il y a un isolement pour une raison X ou Y, avec peut-être un terrain plus compliqué, avec une dépression ou quoi, ces personnes-là ont d'autant plus besoin en fait d'être touchées. Et je dirais en fait celles qui sont bien dans un monde un petit peu de bisounours, bah, au contraire ont besoin de cultiver et de continuer à faire du préventif avec ce toucher bienveillant en réalité. Pour redescendre hein, du coup, pour revenir sur la petite enfance, le toucher au niveau des bienfaits, il va permettre de, comme on disait tout à l'heure, de développer en fait le lien d'attachement avec la personne qui va les masser. C'est primordial chez les prématurés qui ont un besoin accru de soins et qui sont déjà beaucoup plus médicalisés que des bébés nés à terme. Il y a aussi donc des effets bien sûr positifs sur le sommeil par rapport à la chimie des hormones dont on parlait tout à l'heure. On va stimuler de cette même manière en fait le système de défense immunitaire. C'est très relaxant aussi parce que ben, ça va les amener à avoir moins de stress, parce que ben, mine de rien, l'accouchement en soi, c'est quand même aussi une étape pas forcément toujours facile, ni pour le bébé, ni pour la maman. Donc ça peut effectivement être une source de stress. Donc là, ça va permettre de temporiser ce stress-là. Ça peut avoir une incidence, bien évidemment, au niveau du système digestif hein, de l'enfant, avec les ballonnements des premières semaines, tout ça. Ça favorise essentiellement la communication avec le bébé, comme on disait, en fait, la communication non-verbale, parce qu'il faut rester à l'écoute des signaux que va nous faire le bébé durant le soin, en fait, hein, ou l'enfant. Et les trois points qui sont aussi importants, c'est que ça va donc stimuler la circulation sanguine, la circulation nerveuse, mais ça va aussi permettre de favoriser le développement physique et mental, en fait, et de renforcer aussi la musculation et les capacités de coordination de ces bébés qui sont en devenir d'adultes, quoi.
Un gros travail sur la cognition en général, c'est ça ?
Tout à fait. On revient à la fois sur un côté scientifique grâce à toute la sécrétion d'hormones qui vont être là pour activer la régénérescence du sang avec l'oxygénation, mais à la fois aussi sur un côté psychique qui va apporter sécurité, confort, confiance et amour. Et ça reste les éléments de base en fait pour avoir des adultes sains quand on est enfant.
Donc on peut dire aussi par là que le toucher, le contact, que ce soit par le biais du massage soin ou du contact immédiat avec son entourage, va également faciliter les interactions sociales.
Oui, on a 20% de notre énergie en fait qui est d'origine de nos relations sociales proches. Donc c'est l'entourage et les personnes qu'on voit le plus récurremment possible. Ça c'est 20% de notre énergie. Donc si on prend en considération en fait qu'on a un besoin, parce qu'on est un animal social hein, en fait, hein, sociable, on a besoin du coup de cette relation. Et effectivement, Pascal disait au tout début que le toucher est le premier sens à apparaître et le dernier à disparaître. Donc ça veut bien dire qu'en fait on a un besoin de contact physique aussi.
Donc dans l'ensemble, toutes ces capacités-là cognitives, toutes ces capacités de développement et d'interaction par le toucher se retrouvent sur toute la phase de vie, c'est ça ?
Oui, je pense en l'occurrence à une rééducation post-opératoire pour quelque chose de fonctionnel, peut-être au niveau même des jambes uniquement. Ben, il va y avoir souvent une rééducation avec de la kinésithérapie. Ça peut être de l'accompagnement pour retrouver la marche et on peut bien évidemment travailler en simultané avec des massages de jambes éventuellement selon la nature hein, de l'opération, bien évidemment qu'il n'y a pas de contre-indication avec un toucher par rapport à la rééducation qu'il y a à faire. On a aussi une correspondance entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, donc on peut éventuellement masser les bras en fait pour améliorer la circulation sanguine, parce que c'est vraiment le sang qui est porteur en fait de la guérison hein, avec la bonne oxygénation pour une amélioration au niveau des jambes. Donc ça peut être chez les enfants, chez les adultes, mais aussi chez les personnes âgées, bien évidemment. Toutes ces capacités de coordination, on les retrouve à tout âge.
Lorsqu'on veut, par exemple, lever une personne âgée, moi je trouve que s'il y a un geste à faire chez ces personnes-là, c'est de compresser les pieds pour qu'elles retrouvent cette assise et que le lever soit facilité pour qu'elles mettent les pieds par terre, qu'elles sentent vraiment qu'elles ont des pieds.
On réactive la circulation sanguine.
On réactive la circulation sanguine, mais il y a une mémoire du toucher aussi, de ce pied qui était là, qui faisait partie du corps, mais quand on n'est plus touché, on ne sait plus très bien ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Hein. Et donc, malaxer les pieds, vraiment, ça dure 2-3 minutes. Tous les soignants devraient faire ça à leurs patients avant de les lever. C'est quelque chose de fabuleux. Et quand on donne les formations et qu'on leur montre ce petit geste-là, ah oui, effectivement, ça fait beaucoup de bien. Oui, on ressent de nouveau cette plante de pied.
Et pour anecdote, ce toucher là auquel pense Pascal, en fait, c'est un toucher que je pratique à la fin de chaque consultation en réflexologie. Et ce week-end, je donnais cours à l'Institut international de réflexologie INGAM près de Toulouse. Et donc, aux élèves qui sont en apprentissage, en fait, je leur ai fait ce toucher là. Et eux qui sont dans l'échange, on trouvait ça tout à fait fabuleux, c'était vraiment magique au niveau du contact, parce que justement il y a toute cette stimulation. Il faut pas oublier que sous les pieds en fait on a aussi du coup la stimulation de la lymphe, et donc c'est ce qui permet de nettoyer notre corps. Donc c'est important en fait d'avoir une activité physique bien évidemment, mais de se toucher en fait ça va comme comprimer avec beaucoup de bienveillance le pied et relancer en fait cette lymphe. À lui tout seul ce geste va pas suffire, mais c'est l'idée en fait qui en est là, c'est pour poser les pieds par terre pour commencer à mettre le corps en mouvement.
Ça donne un petit peu cette sensation de mouvement, comme tu le précises, de marche.
Oui.
Est-ce que marcher pieds nus dans l'herbe peut apporter les mêmes propriétés, les mêmes bienfaits ?
On va pas être sur les mêmes bienfaits. Ça va apporter du bien-être. Je trouve personnellement que ça apporte du bien-être de marcher pieds nus, même si des fois ça picote un peu sur les cailloux ou quoi. Il va y avoir une stimulation avec la pression de notre poids, mais c'est pas forcément très précis par rapport aux besoins de la personne. C'est pour ça que la réflexologie, plus que le massage, parce qu'on met de la réflexologie dans certains massages, bien évidemment, ça va être beaucoup plus précis, on va aller chercher les points réflexes, comme c'est référencé en fait, hein, grâce aux recherches qui ont été réalisées, et là on va pouvoir apporter un soin. Après je dirais que marcher pieds nus permet d'être plus en connexion et plus en contact en fait avec la nature, qui est quand même... notre mère nature à privilégier et vraiment à mettre un peu en sacralisation pour rester en communication avec elle.
Pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité ou le ressenti de se faire masser, accompagner dans un toucher, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conseil ?
Peut-être de l'automassage palmaire déjà, donc via les mains. On peut... Alors j'ai davantage de connaissances au niveau de la réflexologie et des massages sur les mains et les avant-bras. Donc ça peut être une approche qu'on peut déjà leur partager pour qu'ils s'approprient quelques gestes et que justement il y ait déjà une reconnaissance d'une partie de leur corps, comme disait Pascal avec l'expérience de la résidente en EHPAD dont elle parlait tout à l'heure, qui a été dans le mimétisme. Ça peut faire revenir des sens, faire revenir de l'amour de soi-même. Donc sur les personnes effectivement qui sont encore en difficulté à se faire masser, ça leur permettrait déjà d'avoir une première approche effectivement en tant que personne autonome, du moins actrice de son mieux-être.
Et normalement bienveillante vis-à-vis d'elle-même.
Oui, tout à fait.
Puis elle sait quelle partie elle pourrait toucher plus facilement qu'une autre et petit à petit venir vers un thérapeute. Mais bon, c'est tout un travail. Hein. Les personnes qui ne supportent pas d'être touchées, même se toucher, des fois c'est difficile. Même faire un automassage, des fois ça peut être compliqué.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette perspective-là en se disant « Non, moi ça ne m'intéresse pas. Non, je n'aime pas être touchée. » Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là ?
Le respecter. Hein. Moi, je ne veux pas essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être touché, ça sert à rien. C'est pas porteur. C'est pas faire preuve de bienveillance, je trouve, vis-à-vis de l'autre. Il faut respecter son choix. Ça, c'est la première chose.
Après, il faut aussi qu'il sache que c'est assez libérateur. Libérateur des tensions musculaires, libérateur de certaines tensions nerveuses et libérateur des tensions psychiques, en fait. Hein, parce que c'est souvent des barrières psychiques qui vont les empêcher de vouloir être touchés. C'est pour ça qu'avoir une approche tout à fait,
progressive
merci. Ça va leur permettre, en fait, de se réconcilier, mais aussi de se libérer de cette charge, en fait, qui les empêche de pouvoir se toucher ou être touchés. Donc, il y a vraiment cette notion, puis ça, c'est les gens qui nous le disent à la fin des massages, ils se sentent plus légers, ils sont soulagés, il y en a qui ont vraiment l'impression que quand on finit le massage, souvent c'est avec la pointe des cheveux en fait, hein, c'est comme si on prenait tout ce qu'on a pu faire bouger et hop, on le faisait partir vraiment de toutes les extrémités, et ils ont vraiment le sentiment que quand on est à la pointe de leurs cheveux, il y a tout qui s'est déchargé, et ça c'est très fréquent que les gens le manifestent de la même manière sans se connaître quoi, en réalité, donc c'est très satisfaisant.
Mais non, il faut bien se dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout être touchés. Oui. C'est tout de même relativement rare. Moi, je travaillais dans un hôpital, dans un CHU en Belgique. Quand on proposait des massages, c'était rare qu'on avait des refus. Au moins, ils essayaient. Et donc, sauf quelques personnes qui disaient « Non, moi, ça, c'est vraiment pas mon truc, je n'en veux pas. » Moi, j'ai eu des personnes qui avaient été abusées dans l'enfance, qui venaient quand même découvrir un toucher bienveillant. C'était pas toujours facile, mais on y allait progressivement. Et ils redécouvraient quelque chose qui est agréable, au-delà de ce qu'ils avaient vécu. Ils redécouvraient la bienveillance dans le toucher et le plaisir que ça apporte, et non pas la souffrance.
Parce que c'est essentiel, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est naturel et on a besoin d'être touché, donc depuis jeune âge, quoi.
Moi, je suis toujours restée sur une image que j'avais vue à la télévision à l'époque, et ça date, hein, quand Ceaușescu est tombé en Roumanie. Ils avaient montré des images des orphelinats, où les enfants, mais de tous âges, étaient couchés dans des petits lits métalliques à barreaux, recroquevillés sur eux-mêmes parce qu'ils avaient juste le soin élémentaire de manger, de boire. Ils n'avaient pas de toucher, ils n'avaient rien d'autre. Ils étaient à peine vêtus, mais ils étaient en régression totale. Donc moi, ça m'a toujours marqué, et bien avant que je fasse des massages. Donc, vraiment, le massage, il développe l'enfant, il permet d'épanouir l'adulte et il permet un bien-être ou un mieux-être, en tout cas, de la personne qui est vieillissante et qui va tout doucement vers une fin de vie.
Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous pourriez apporter le mot de la fin ?
Est-ce qu'il y a une fin au toucher? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je crois que vraiment, c'est un sens à redécouvrir. Et je pense qu'il y a une mouvance dans le toucher, le massage. Je crois vraiment que les gens redécouvrent, après la période qu'on a vécue, quelque chose qui leur fait du bien. Et c'est pas très scientifique, parce que c'est vrai que bon, voilà, il n'y a pas de grosses études qui marquent de tous les bienfaits que ça peut apporter. Mais je crois que les gens reviennent à ce sens qui est vraiment fondamental pour qu'ils puissent continuer à vivre sereinement, en diminuant un petit peu l'agressivité, parce que je pense que c'est aussi un bon moyen de diminuer l'agressivité des personnes.
Est-ce que plus de câlins empêcherait l'agressivité?
Oh oui, ça j'en suis bien convaincue. Évidemment. Convaincue.
J'ai entendu un petit mot doux, la câlinothérapie. Et effectivement, ça permettrait bien évidemment de réduire cette agressivité qui peut être parfois naissante.
Mais c'est terrible qu'on en arrive à des câlinothérapies alors que ça doit être quelque chose de spontané. Quand un enfant se fait mal, on le prend, on le serre, on le frotte. Enfin, je veux dire, c'est ce contact qui lui fait du bien. Et qu'on en arrive à devoir faire des câlinothérapies, moi, ça me dépasse un petit peu quand même.
À tous nos auditeurs, si vous souhaitez vous lancer dans la câlinothérapie sans appeler par ce terme,
oui, tout
la
à
démarche,
fait.
Je vous en prie, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous des câlins les uns les autres, prenez-vous par la main,
oui.
Faites-vous faire des massages, faites-vous poupougner, faites-vous dorloter, faites-vous toucher. Ce contact si bienveillant qui va favoriser cette ocytocine, cette hormone sociétale, cette hormone du bien-être aussi.
Oui, et si vous aimez donner à votre entourage en fait, des massages, je rencontre beaucoup de gens qui me disent oh, ben, je masse mes enfants, ou mon mari, ou les pieds de ma femme, quoi, sans savoir exactement ce que je fais. Certains sont équipés d'un manuel et suivent le manuel. Sachez que vous pouvez aussi venir vous former avec Pascal et moi-même sur des formations courtes de 2 jours, en général le week-end, ça peut être la semaine, ou alors sur des formations longues justement sur le toucher bien-être, donc le modelage curae que Pascal enseignait au CHU de Bruxelles pendant plusieurs années, beaucoup d'années. Maintenant, il est possible en fait de venir vous former avec nous, ou alors venez découvrir aussi la réflexologie ou le chassou du visage.
Ce qui est, enfin, je m'arrête parce qu'on pourrait parler du toucher pendant des heures encore, mais ce qui est très très positif par rapport à ce que nous donnons aux patients, que ça soit Marie-Laure ou moi, c'est que nous avons une panoplie de soins. Et donc, si les gens n'aiment pas les massages des jambes ou du corps entier, il y a la réflexologie plantaire, il y a le massage crânien, il y a le shiatsu du visage. Voilà, donc c'est vraiment un panel de soins et les gens piochent dedans et prennent ce qui leur convient le mieux. Ils peuvent tester plusieurs choses et puis ils accrochent plus au visage ou plus aux pieds. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Ce sont tous des touchés différents.
Si vous, auditeurs, vous êtes donc intéressés par les formations, vous pouvez retrouver Marie-Laure et Pascal en formation à l'USECH. C'était Daniel en compagnie de Marie-Laure Pimentel et Pascal Baert pour un sujet très câlinou, très tout doux, très tactile pour le toucher. Je vous souhaite du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête et beaucoup de câlins. À très vite.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée. Au revoir.